On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors on est avec Majid, et Majid, du coup, tu vas nous parler d'une recette qui te tient à cœur. C'est quoi cette recette?
Ce qu'on appelle en Kabylie l'ahmis. C'est une recette que ma mère me préparait pour les bonnes occasions, et elle était accompagnée d'un pain, donc ararom. Donc c'est à base de poivrons, comme dans la Méditerranée, avec les tomates. Mais la subtilité, c'était de le faire au feu de bois et d'enlever les premières couches du poivron, les trucs. Et je voyais avec ses mains, délicatement, en train d'enlever tout ce qui entourait la première peau du poivron. Et pareil pour les tomates. Et elle mettait tout ça dans une espèce de... Voilà, c'était une espèce de pilon en bois où elle mettait le tout et elle tapait dessus et elle écrasait et elle faisait des tours et elle tapait. Déjà, moi, je sentais l'odeur qui sortait de ces trucs-là. Et une fois que c'était fini, elle le présentait dans un plat et elle préparait toujours sur le feu de bois le pain. Donc avec les ingrédients, la semoule fine. Et elle mettait de la levure qu'elle... Alors je ne sais pas comment elle faisait, mais c'était une levure spéciale qu'elle préparait. Donc elle sortait cette levure, elle le mettait, et puis elle pétrissait le pain, elle pétrissait avec de l'huile, avec de l'eau, avec des... Et je voyais cette espèce de boule qui se mettait en place. Et elle la laissait reposer. Et après, avec ses mains, elle aplatissait, et ce qui était marrant, c'est qu'elle faisait vraiment une super circonférence. Et elle mettait ça au feu de bois, et elle tournait chaque fois. Elle ne laissait pas trop le pain se cuire, et je voyais le pain qui se croustait. Et le soir, quand elle me présentait le pain coupé et l'ahmis, je mangeais ça avec mes doigts, et j'étais presque en train de manger mes doigts à la fin, tellement c'était bon et que c'était dingue.
C'était une pâte donc, qui était préparée voilà, à la façon d'un pain, mais avec des ingrédients comme des poivrons et de la tomate qui étaient incorporés. Et au final, ça te donnait une sorte de galette, c'est ça?
Oui, il y avait les deux solutions. Soit elle rentrait la pâte qu'elle préparait, elle coupait la galette en deux avant de la faire cuire. Ou soit elle présentait la galette et puis elle présentait le plat. Et nous, dans les saladiers, on mangeait à plusieurs avec le pain, avec les doigts. C'était vraiment le partage de manger ensemble avec les doigts, elle était comme ça. Mais c'est voilà, j'ai toujours gardé une... J'ai appris à le faire il n'y a pas très longtemps, me disant il faudrait que tu apprennes à faire cette... Mais voilà, c'est jamais la galette de maman, c'est jamais la galette de... Voilà, et j'en garde un très bon souvenir. Et pour anecdote, j'étais à l'école primaire, on avait reçu les classements à l'époque, et moi j'étais second. Donc très fier, arrivant en courant à la maison, maman, t'as vu, je suis deuxième et tout, elle me dit, c'est bien mon fils. Et quand je vois le père arriver, je lui dis, je suis deuxième, il me dit, pourquoi il y en a un avant toi? J'avais mal pris, et ma mère me dit, non, ce soir je te fais l'ahmis, je te le prépare spécialement pour toi. Voilà, c'est ces moments de vie, c'est ces moments de trucs, et c'est vrai que des fois l'enfance est liée à des odeurs, à des trucs, à une préparation, et cette recette là qui est simple, je suis toujours en train de craquer quand je la goûte.
يا الفرحة مقران ميديو غال سخام روحنا كوي غفلان تبدل الدنيا تفلي يا رقازي مبابا مسود مي صحان يا رمدنا ردن فانم ميمي قران غادي لي ففلتي هنوى ثغدي يا المكان ميت السلف الوفان قصة ذك وذمي سثولي أمي ما بحال أحيا الدهبار غمان يا نراجول بردان بابك ما ديب ذو ذكلي غاصدي طيش يرغان غدا ثليسان غاصد زروح فان حمل وكي ذراري نوم سداوي قنوان يكشم كريثران نتسر قفوسان يدي الحيف وردي سنو الفو هيا كالي مغبان وري اللي وين يروان عيك الخاغص مان امزو نبوي دعو السوق أني في غيتشان أهيا تصارى بركان دين تسانس ورفان من غير ذيك سدوى حلو
Tu nous parles d'un souvenir d'enfance qui est basé sur une recette berbère, tu l'as dit. Ça fait plus de 40 ans que tu vis dans les Cévennes. C'est marrant ce lien, du coup. Tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qui a conduit justement à cette vie dans les Cévennes, à cet ancrage dans les Cévennes, et en même temps ce lien que tu as avec une culture qui est autre, qui n'est pas la culture cévenole à proprement parler, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ce parcours? Tu peux nous le décrire un petit peu?
Dans un premier temps, je suis né à Alès. Mon père était ce qu'on appelait une gueule noire, donc la culture ouvrière. On habitait dans un quartier, les Prés-Saint-Jean, qui avait une mauvaise réputation à l'extérieur, mais c'était un quartier où tous mes copains étaient polonais, espagnols, italiens. C'était des enfants d'ouvriers. Il y avait les fendeurs de Tamaris, il y avait les mineurs de Rochebelle, de la Grand-Combe, comme ça. Donc c'était vraiment une culture ouvrière et je garde une très belle enfance de ça. Et je suis allé à l'école et mon père voulait me programmer pour devenir ingénieur. C'était dans sa tête. Et bien sûr, j'ai fait terminal E. Je me suis présenté à l'école des mines d'Alès, mais je n'avais pas droit aux bourses. Il fut un temps, ceux qui étaient algériens, on ne leur donnait pas des bourses parce que Boumediene voulait récupérer ses étudiants en Algérie. Et c'est pour ça que je suis parti après en Algérie, rentrer à l'Institut minier d'Annaba. Et là, je suis resté dans les mouvements politiques, ce qu'on appelait à l'époque la révolution berbère, l'arrivée du fils, des trucs comme ça, qui m'a fait revenir en France aussi pour des raisons de sécurité. Et quand j'étais en Kabylie, petit, et que j'avais l'impression d'arriver dans les Cévennes, parce que c'est les petites montagnes, ça ressemble étrangement à nos Cévennes, que j'appelle ma seconde Kabylie. Et quand j'arrivais enfant en Kabylie et que mon père me disait « Écoute, je t'amène en haut dans les villages » parce que tous les villages là-haut sont perchés et que je voyais tous les attroupements parce que de loin, ils voyaient arriver la voiture. Et donc, tous les gens descendaient parce qu'ils savaient qu'il y avait un arrivage, quelqu'un qui arrivait là-dedans. Et j'ai vu plein de gens qui attendaient sur la place du village, des ânes, il y avait de tout, il y avait tout un mélange et tout. Et j'ai dit « Mais papa, c'est qui ça ?» Il me dit « C'est ta famille ». Et ça m'a complètement déstabilisé. Mais j'ai dit, mais comment c'est tout ça? Puis plus tard, j'ai appris que c'était des clans, que c'était un accueil incroyable avec des gens qui voulaient absolument me parler, me voir. Et j'étais obligé des fois de faire plusieurs repas pour pas mettre à mal la bonne vieille qui m'avait demandé de venir manger avec elle à un moment donné un soir. Donc j'allais garder toujours une belle nostalgie, un très beau peuple. très belle aussi sensibilité musicale, les chants, c'était une culture orale, il y avait beaucoup de veillées, il y avait beaucoup de contes, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était qu'à la bougie qu'on s'éclairait, on dormait avec la course du soleil. Et quand je revenais en France, les Cévennes, ben, c'était ma seconde Kabylie. Et j'ai pas mieux fait à un moment donné que de travailler ben, dans l'établissement à Salagosse, qui est encore un établissement qui est perché dans la montagne. Et quand je suis venu en stage dans cet établissement, qui était réputé difficile ou quoi, ben j'ai appris à rechercher l'enfant chez le jeune prédateur, qui était connu comme ça pour sa manière de se positionner, de créer des conflits. Et je me suis dit à un moment donné que si un enfant n'arrive pas à expliquer son histoire, il peut être complètement perdu et ne plus comprendre où il va. Donc moi, ça a été un peu mon bâton aussi de combat, de reconstituer cette histoire, de leur parler, de discuter avec eux, d'aller faire un peu. Et je crois que mes meilleurs professeurs ont été les jeunes eux-mêmes, qui m'ont bousculé, que j'ai bousculé, et en même temps toujours avec cet esprit de non-violence, de ne pas tomber dans le jeu de la provocation, mais de travailler par l'humour, travailler par la manière de les amener à penser par eux-mêmes. Et pas les faire penser comme on voudrait qu'on les fasse penser. C'est-à-dire que j'ai toujours cru à ce que le jeune, c'était le premier acteur de son mouvement, même s'il est compliqué, même s'il est difficile. Je prends aussi en considération le fait qu'on est une société compliquée, où maintenant le temps est beaucoup plus court, alors que j'ai toujours rêvé du temps long, de laisser les choses se décanter. Peut-être ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'ils n'ont jamais été rancuniers. Jamais ils ont eu une rancœur, en tout cas de ceux que j'ai vus comme anciens, qui sont revenus toujours dans ce village parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur adolescence, que ça les a fait changer. Mais le problème dans l'éducatif, c'est que parfois c'est un métier impossible, et en même temps c'est un métier qui est ingrat parce que la graine qu'on sème, c'est plus tard qu'elle ressort, et on n'est pas censé la voir à ce moment-là. Mais la vie nous amène à rencontrer des anciens qui nous racontent tout et qui nous racontent en détail la manière dont on était et que nous-mêmes on a oublié. C'est pour ça que travailler avec l'humain, c'est une richesse incroyable.
Thank you.
dans ce petit hameau perché dans les montagnes Cévenoles. Tu peux nous la raconter? Tu te souviens un petit peu de tes premiers jours ici?
Je suis arrivé avec mon sac à dos bleu à l'époque et j'ai rencontré M. Liard qui m'a dit « Vous êtes le stagiaire ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Est-ce que vous avez un endroit pour dormir ?» J'ai dit « Non ». Il m'a dit ben, « Je vous trouverai un lieu qui s'appelle à l'école, il y avait un chalet donc avec une chambre qui s'appelait Edelweiss, je pouvais dormir là ». Et il m'avait demandé « Est-ce que je pouvais être opérationnel rapidement ?» parce qu'un éducateur s'était planté en moto. Et donc il n'y avait personne et je suis arrivé dans la salle qui s'appelait l'auberge. C'était une unité éducative, c'était les plus vieux, ils avaient 21 ans, 20, 21 ans. Moi à l'époque j'avais peut-être 22, enfin j'étais pas, j'étais à l'école, je sortais de l'école, j'étais en stage. Et je me rappelle que pour faire le repas, il y avait Kazou qu'on appelait le cuisinier qui était là et qui devait manger avec les jeunes. Et j'avais une espèce de soupe chaude. Et un jeune s'est mis à, d'un coup à crier. Et moi, le réflexe, c'est que j'ai jeté la soupe. Et tout s'était renversé sur la table. Me disant, ouais, mais pourquoi tu as jeté la soupe? J'ai dit, pourquoi il se met à crier lui aussi? Enfin, bref, j'étais rentré. Je crois que le contact est parti de là. Et ah ben, il est nettoyé, truc. Et puis les jeunes me disaient, mais lui, il ne comprenait pas pourquoi je dormais dans un autre lieu. Voilà, ils pensaient que j'étais un jeune qui était placé dans leur tête. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne dormais pas dans un groupe ou dans un truc comme ça. Jusqu'au lendemain, quand je les ai réveillés, en leur disant « Voilà, je suis en stage, alors vous allez m'apprendre à devenir éducateur. »
Parce que ça, en fait, c'était donc en 1982, il y avait un écart d'âge entre toi et les jeunes qui était finalement assez réduit.
Très réduit, oui. On était à peut-être 2 ans de différence. Et j'ai expérimenté là-dedans. Et comme je n'avais pas de voiture et que je partais tous les 10 jours, je restais 10 jours et je partais 4 jours avec Kazou qui était à Alès, qui avait une voiture. Et lui m'amenait pendant ses vacances, pendant nos congés sur Alès et il me ramenait à Salagosse et je restais 10 jours. De telle manière que les jeunes m'avaient appelé France Inter. Et je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait France Inter. Il me dit parce que 24 sur 24, tu es avec nous. Quand j'ai fini mon stage, je suis parti faire... je travaillais à l'atelier Super 8 d'Alès. Et pendant une semaine décloisonnée, j'avais fait comme projet de partir tourner un film à Pont-de-Montvert avec 4 jeunes, un homme d'entretien. Et nous voilà partis avec tout le matos du cinéma pour tourner à Pont-de-Montvert un film qui n'avait aucun sens. Mais c'était, le truc, c'était d'être ensemble et de tourner. Un aubergiste de Pont-de-Montvert, et je m'en excuse encore, 40, peut-être 40 ans après, il nous avait dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez filmer ?» Et Kazou a dit « Nous, on est l'équipe de FR3 et on vient de tourner dans la région et tout ça. Mais est-ce que vous voulez venir tourner dans mon restaurant, dans mon truc ?» Et voilà, on tournait. Kazou qui faisait les interviews, les jeunes qui étaient là. Et les jeunes savaient que c'était pas vrai, que c'était faux, que c'était un mensonge. Mais ça s'organisait autour de ça. Et donc, on a eu quelques petites assiettes pour nous remercier en disant « Mais quand est-ce qu'on passera à la télévision ?» J'avais donné une date complètement fictive. Puis on est parti. Voilà. Bon, je m'excuse de ça, mais c'était tellement fort auprès des jeunes que voilà, c'était un vécu qui était un peu à part. Et c'est que ces expériences-là, voilà, il n'y a aucun mot qui peut le dire.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old stories.
have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Je reviens aussi à l'anecdote du premier contact à travers un repas un peu raté du coup avec une soupe qui est renversée. Qu'est-ce qui peut se jouer à travers la cuisine selon toi ?
La cuisine, c'est un lieu de partage et c'est un lieu des fois de conflit avec les jeunes parce que les choses se disent. Et moi, j'avais toujours à cœur d'expliquer aux jeunes que c'est toujours bien de partager, de ne pas jeter les aliments, même si la cuisine est institutionnelle. Je leur disais tout le temps qu'il fallait manger avec son ventre et pas avec ses yeux. Moi, je tenais à ce que les assiettes soient propres. Il y a des échanges. Je vois que souvent, des fois, c'est des trucs où on peut se raconter des histoires, où on peut se raconter des blagues, où on peut se raconter des choses. Et c'est toujours bien de pouvoir les partager autour d'un repas. C'est convivial. En même temps, c'est le lieu, des fois, des conflits. Moi, j'ai vu des repas où ça partait un peu en catastrophe parce que deux jeunes ne se supportaient pas. Et d'expliquer à des jeunes qu'ils étaient capables aussi de faire un repas sans foutre le bordel, que c'est important de leur dire. C'est pas toujours de leur dire là où ils déconnent, c'est de leur dire aussi là où ils ont fait des efforts, où c'est devenu... Parce que pour nous, c'est naturel, mais pour certains, c'est pas du tout naturel. C'est des lieux aussi qui nous ramène un peu à la maison, dans la manière dont on parlait. Moi, je sais que les repas que je faisais à la maison, nous, on ne pouvait pas manger tant que le père n'était pas assis, et on ne pouvait pas parler, et c'était que le père qui nous posait des questions. C'était aussi notre culture, notre manière de faire, chacun avec son lieu. Et en même temps, ben voilà, c'est un partage, et c'est un truc d'apprendre à écouter, c'est important. D'expliquer aux jeunes que c'est important aussi qu'ils se taisent pour laisser parler l'autre. En fait, ce que je trouve qui est compliqué, c'est de se dire comment on peut amener une discussion et pas seulement chacun un monologue dans lequel il est tout est déjà préétabli et de dire non, des fois on n'est pas obligé de répondre si on ne connaît pas la réponse, mais d'écouter c'est important parce que derrière ce qui se dit, il y a beaucoup de choses.
Tu as une anecdote qui te viendrait d'un repas passé avec des jeunes justement dont tu t'es occupé pendant ces 41 années ?
Nous, on faisait des camps un peu isolés et moi, j'en avais marre. Je me suis dit, moi, je veux absolument aller faire un camp dans un camping. Et c'est vrai que dans les campings, on disait, moi, quel type de jeunes vous avez ? Je dis, moi, c'est des jeunes délinquants qui ont des troubles, de comportement. Bon, il avait vu que je ne montais pas, que je n'étais pas en train de dire, c'est des jeunes tout gentils, tout... Non, c'était des jeunes, des fois, un peu compliqués, qui parlaient fort, qui avaient leur look. Quand il a su que j'étais un fils de mineur et que lui était un mineur, il a dit « je vous prends ». Et donc, quand il est installé, il n'y avait que des Hollandais. On imagine le gazon en plastique, les trucs bien posés, les trucs comme ça. Et nous, on avait des espèces de tentes Touareg qu'on mettait un peu... Bon, ça faisait qu'on venait de l'attraction des fauvettes en disant « mais qu'est-ce que c'est, ces trucs-là ». Et donc, en même temps, c'était l'organisation pour les repas, aller faire les courses, aller au marché, marchander maximum pour gagner de dépenser moins de fric dans l'alimentation pour pouvoir l'utiliser sur les activités. Enfin voilà, c'était notre gestion. Et puis chacun faisait sa popote et on faisait un mélange. Et puis les jeunes découvraient aussi d'autres manières de faire. Et on faisait les belles salades et ils voyaient que les Hollandais passaient nous regarder. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Et donc il y a eu un échange. Et on a vu des Hollandais qui disaient « Oh ben tiens !» Et les jeunes disaient « Ouais, mais bon, Magid, il faut que tu nous appelles à parler anglais. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Ouais, mais parce que les Hollandais ne savent pas parler français. » Et j'ai des jeunes après qui étaient invités par les parents à manger avec eux. Et les jeunes ne comprenaient pas en disant « Mais Magid, il sait que je sors avec sa fille. En plus, le père, il m'invite. » J'ai dit, ben oui, mais c'est une autre manière aussi. Il y a d'autres cultures, il y a d'autres gens qui sont ouverts. On n'est pas que fermés. Donc, c'est fait que j'ai passé un camp formidable que je ne pourrais pas faire en ce moment parce que je voyais que des fois, faire des activités, je voulais faire un maximum d'activités. Et des fois, j'avais des Hollandaises sur le trafic. Alors je n'avais pas le droit de les prendre avec les jeunes pour aller faire du canoë. Et je revenais, et j'en prenais d'autres qui allaient faire du cheval. Et puis j'en prenais d'autres. Ça faisait partie de la famille, quoi.
Donc la cuisine, là, tu l'as vu, du coup, on part de repas partagés, du coup, avec du lien qui se crée, des amourettes qui se déclenchent. Et puis des familles hollandaises, du coup, qui finissent par inviter les jeunes « difficiles » entre guillemets de l'époque. À table dans ce cocon un petit peu du camping, du moment de parenthèse des vacances, quoi.
Oui, en même temps, des anecdotes aussi où j'ai réveillé les jeunes dans la nuit parce qu'il manquait 4 yaourts dans le frigo.
C'était rigide.
Oui, mais en même temps, à un moment donné, il faut respecter les autres. Donc, je veux savoir qui c'est qui a... Oui, mais Magid, tu vas pas nous réveiller que pour ça. Dis-y, si, parce que moi, je veux que ça tourne. Voilà, je veux pas que je sois en contrôle tout le temps. Mais c'est des choses comme ça qui se passent. Que je vois actuellement, des fois, des jeunes, quand ils se servent, je dis, ils pensent qu'il y en a d'autres qui sont pas encore servis. Donc, c'est toujours un moment où on partage. Un moment où ça se discute, où on rigole, où des fois on pose des problèmes, on essaye de trouver des solutions. Voilà, c'est toujours un moment qui est important.
Qu'est-ce qui est important, selon toi, pour réussir un repas? C'est une question que je pose à chaque fois.
Ah ben déjà, un repas qui est fait avec amour, c'est un bon repas. Préparer quelque chose, ce n'est pas la vite fait, ça met du temps. Moi, les jeunes me questionnaient en me disant « Mais Magid, je ne comprends pas pourquoi tu prends Internet pour faire à manger ». Je dis, mais parce que j'ai envie de voyager, là on va faire un truc sicilien, j'ai vu qu'il y a une recette là, je vais la tester, je ne la connais pas bien, il y a des produits que je ne connais pas, c'est la première fois que je viens d'acheter, je le fais et j'ai envie de partager. On part, c'est vrai que le goût n'est pas le même, que c'est différent, mais connaître le monde, c'est aussi connaître le goût. Quand quelqu'un a préparé le repas qu'il y est resté, il faut l'apprécier. Ce que je dis même encore très récemment avec les jeunes, tu te mets autour de la table. Tu n'es pas obligé de manger beaucoup, mais ce n'est pas parce que c'est l'Afghanistan qui prépare le repas et que la Tunisie, c'est plus les tagines et que le truc. Il faut changer, il faut, parce que changer de culture, ce n'est pas aussi simple qu'on croit. Et c'est de découvrir la culture des autres. Et des fois, c'est bien parce que ça se transforme. Quand je me suis séparé et que j'ai divorcé, ma fille Sana avait 7 ans. Et il a demandé à sa maman, mais qu'est-ce qu'il va manger, papa? Donc sa maman m'a téléphoné, elle me dit, écoute, Sana, elle est très inquiète parce qu'elle se demande ce que tu vas manger. Elle s'imagine qu'il y a toujours moi qui a fait à manger et que toi, tu n'aurais plus rien à manger. Et le lendemain, je suis allé chercher dans une librairie, j'ai vu un truc qui s'appelait « Ma cuisine algérienne ». J'ai récupéré ce bouquin, j'ai regardé, j'ai acheté tous les instruments et j'ai commencé vers la cuisine. Et quand Sana est arrivée, je lui avais préparé un super tagine. En lui disant, regarde, tu vois, je meurs pas de faim, la cuisine ça s'apprend et tout. Et puis elle a aimé faire la cuisine aussi, et donc les week-ends on passait à faire la cuisine ensemble. Donc la cuisine c'est un lieu de, à la fois thérapeutique, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu d'échange. Et quand on fait la cuisine, que ce soit pour des amis ou pour n'importe quoi, c'est un grand honneur que de servir les plats et de les présenter.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire, c'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.